On commence Bezrat Hashem notre quatrième cours sur le chapitre 18, chapitre très important dans le Tanya, page 242 pour ceux qui ont le livre en français. Sinon, dans le Tanya classique, c'est bien sûr Perek Utret, page 46. En fait, page 47, donc page Rav Dalet.
242,
oui. Là page 242 dans ce livre. Alors en fait, ce qu'on a expliqué, voilà, l'Elou Nishmat.
Yaakov
Ben Isachardov, et aussi pour la Refoua Shlema de David Ben Esther. Alors, et aussi pour Nejma, l'Elunishmat, Nejma Bat Turquia. Le thème qu'on a expliqué dans les premiers cours qu'on a fait sur le chapitre 18, pour résumer rapidement, on a expliqué qu'est-ce que c'est la Emouna. C'est la question qu'on a posée. Qu'est-ce que c'est la Emouna? Qu'est-ce que c'est la croyance en Akadosh Baruch Hu? Et surtout, comment définir l'origine de la Emouna en Akadosh Baruch Hu? Alors, on a expliqué longuement dans un premier cours qu'en fait, à la base, la Emouna, le premier juif qui a eu la Emouna en Akadosh Baruch Hu, c'était qui?
Abraham.
C'était Abraham. C'est-à-dire qu'avant lui, c'était inné. Bon, Noé croyait en Dieu, tout le monde croyait en Dieu. Le premier qui a réellement travaillé sur sa croyance, c'était qui? C'était Abraham. Abraham, il s'est travaillé.
Il est né. Était avant Abraham?
Oui, Noé, c'est Abraham. Mais Noach n'a pas fait de travail sur ça. Il est né dans une famille croyante, il était croyant. Avraham Avinu, il est né dans une famille d'incroyants. D'un corps de gens qui n'étaient pas monothéistes. Et dans cette famille-là, il s'est recherché, et il a fini par arriver à la conclusion, que Akadosh Baruch Hu gérait le monde. Donc Avraham Avinu, il est arrivé à cette croyance par ses propres moyens, par son sechel, par son intellect. Mais, on a expliqué longuement, que c'est pas parce que Avraham Avinu, pour arriver à la conclusion, la croyance qu'il y a à Kadosh Baruch Hu, il a dû utiliser son intellect. Et on dit qu'Abraham était très intelligent. C'est-à-dire qu'il a dû utiliser son intellect, son imagination. C'est pas pour autant que ça veut dire que chaque personne du Ham Israël aujourd'hui, pour croire en Dieu, doit être intelligent. Au contraire. On a expliqué.
Puisque c'est inné. Donc.
Voilà. Pourquoi c'est inné? Parce que ça, c'est un srout, c'est un mérite que Dieu a donné à Abraham Avinu. Il lui a dit, pour te remercier du fait que toi, tu m'as découvert de tes propres moyens, je vais te donner la récompense que tes enfants, ce que toi, tu as obtenu difficilement, eux, ils l'auront de manière innée. Ça, c'est un srout, bonsoir. Ça, c'est un srout que Akadosh Baruch Hu, qu'il a donné à Avraham Avinu. Et donc, tous les descendants d'Avraham Avinu, y compris nous jusqu'à maintenant, on a ce srout-là, que quoi qu'il en soit, on a en nous la Emouna, on croit à Akadosh Baruch Hu. Et en fait, il y a peut-être même une notion, bonsoir, pardon. C'est même une notion qu'on n'a peut-être pas trop développée, mais je voudrais rajouter. C'est parce que c'était le Ayom Yom de ce Shabbat. Le commentaire du Ayom Yom de ce Shabbat, il disait quelque chose de très puissant. Il disait que plus on va s'approcher de Mashiach, et plus on verra, on va demander aux gens intelligents de mettre leur cerveau de côté. C'est un peu dur ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? Évidemment, le Ham Israël, on a toujours été appelé le peuple du livre. Et le monde entier nous regarde comme des gens intelligents. Alors, c'est a priori insensé de venir voir quelqu'un d'intelligent et de lui dire « mets de côté ton intelligence ». Si Dieu l'a fait intelligent, c'est qu'il doit utiliser son intelligence. Ça serait une insulte à l'intelligence. C'est quoi la différence? La différence, c'est que des fois, à force de trop utiliser l'intelligence et de voir tout basé sur l'intelligence et sur la logique, le rationnel, à cause de ça, après, comme tout est basé sur le rationnel, dès le moment où une chose n'est plus rationnelle, où on n'arrive plus à l'expliquer, qu'est-ce qui se passe? On dit, ça y est, j'adhère pas. Et c'est pour ça qu'il dit que plus on va s'approcher de Mashiach, et plus le rationnel aura du mal à s'imposer. Ça, c'est écrit clairement dans les textes, que plus le rationnel aura du mal à s'imposer. Ça veut dire que on aura de plus en plus de mal à expliquer les choses rationnellement. C'est quoi ça veut dire? Parce que la science fera des avancées, la Torah aussi.
À l'inverse, ça veut dire qu'il y aura des miracles et le rationnel on le...
Voilà, c'est-à-dire que là pour l'instant il n'y a pas de miracle.
Ouais.
Là il n'y a pas de miracle. Là pour l'instant c'est pas comme la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, il n'y avait que des miracles.
Ouais, mais alors ça veut...
C'est-à-dire même l'incroyant, quand tu vois un miracle qui se passe devant toi, tu ne peux pas dire je ne crois pas. Mais là, de nos jours, il n'y a pas de miracle. Si Dieu il faisait même un quart de miracle qu'il a fait en Égypte, il faut garantir que tout le monde aujourd'hui serait croyant. Il n'y a pas de miracle aujourd'hui.
Il fait tous gagner au loto, c'est bon. Hein.
Juste un demi miracle. Juste il nous montre un petit truc comme ça, tu vois. La rivière qui se transforme en sang, un petit truc comme ça, tu vois. On n'a pas des miracles comme ça aujourd'hui. On a des choses qu'on veut bien interpréter comme des miracles, mais qu'on pourra toujours dire, celui qui voudra ne pas être d'accord, il pourra toujours dire non, c'est pas un miracle. C'est-à-dire que par exemple, il y a une guerre en Israël.
Irréfutable.
Voilà, c'est pas irréfutable. Quand il y a des guerres juste comme ça, que nous on va dire c'est un miracle, il y aura toujours des gens qui vont analyser, qui vont dire non, c'était pas un miracle. Et scientifiquement, t'auras du mal à les convaincre, que ce que tu dis c'est vrai. Parce qu'il faut savoir la chose suivante, plus on va avancer vers Mashiach, et plus le rationnel nous dérangera. Alors c'est pas qu'il faut arrêter le rationnel, j'ai pas dit ça. Au contraire, on est dans la chassidut Chabad. C'est quoi Chabad? Chabad, c'est l'intellect. Chabad, c'est le rationnel. Seulement quoi ? Ce qu'il faut expliquer, c'est savoir quelles sont les limites du rationnel. Ne pas trop lui donner de place. Ne pas trop lui donner de place. À force de vouloir tout expliquer, dès qu'une chose ne s'explique plus, qu'est-ce qu'on fait ? On l'arrête. C'est pour ça que la Emouna, justement, on l'a expliqué dans le cours de la semaine dernière, la Emouna est volontairement irrationnelle. Parce que si la Emouna dépendait du rationnel, le jour où je comprends plus ce qui se passe, j'arrête de croire. Volontairement, la Emouna est au-delà du rationnel et irrationnel. Et c'est pour ça que qu'est-ce que faisaient les grands hommes, les grands tzadikim, d'accord ? Des gens qui étaient brillants, des gens qui étaient brillants. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces grands tzadikim lorsqu'ils faisaient face à des situations très compliquées et que leurs élèves venaient leur demander, leur disaient « Mais explique-moi, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça nous arrive ?» Qu'est-ce qu'ils leur disaient ? Ils leur disaient « À un moment, il faut arrêter de réfléchir, il faut croire et c'est tout. » Est-ce que ça veut dire que croire comme des imbéciles ? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire que la force de la croyance, c'est d'aller au-delà de l'intellect. Pas en dessous de l'intellect, au-delà de l'intellect. Comprendre qu'il y a des choses qui sont au-delà de l'intellect. Je vous donne un exemple. En vérité, il y a plein de choses dans notre vie qui sont au-delà de l'intellect. Prenez par exemple un homme qui va tomber amoureux d'une femme, par exemple. Ça s'explique intellectuellement, ça ?
Non.
Un petit peu, ça peut s'expliquer. Mais est-ce que la puissance peut s'expliquer ? La puissance de l'amour
oui,
peut s'expliquer ?
Mais là, vous parlez de deux problèmes différents.
Attendez, non. Je donne un exemple pour expliquer quoi ? Pour expliquer qu'il y a des choses, que même une personne sensée, qui est très intelligente, peut comprendre, qu'il y a des choses qui ne sont pas dans le rationnel, qui ne relèvent pas du rationnel. Et que ce n'est pas parce que ça ne s'explique pas rationnellement, ce n'est pas parce que ce monsieur qui est intellectuel n'est pas capable d'expliquer pourquoi il aime Madame Intel, que c'est pour ça qu'il ne l'aime pas.
Oui, mais là,
parce que des fois, on a tendance chez les gens rationnels à dire « si je ne le comprends pas, c'est que ça ne marche pas. » D'accord ? Si je n'arrive pas à l'expliquer, bonsoir, par A plus B, ça veut dire que ça ne marche pas. Sur ça, je réponds, je dis « c'est faux ». Il y a beaucoup de choses dans la vie. On va poser une question à ce monsieur. Est-ce que tu es capable d'expliquer pourquoi tu aimes ton fils ? Pourquoi tu aimes ta femme ? Qu'est-ce qu'il va répondre ?
Bonsoir.
D'accord ?
Bonsoir.
Pourquoi pas ?
D'accord ? Il va dire, bon, je l'aime parce que je suis attiré vers elle. Et pourquoi tu es attiré vers elle ?
Ça ne s'explique pas.
Ça ne s'explique pas. Donc tu vois bien qu'il y a des choses qu'on vit tous dans la vie de tous les jours. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce n'est pas forcément qu'on les comprend.
Oui, mais là on est en train d'opposer le sentimental avec l'intellect.
Alors justement,
ils sont pas, on peut
c'est,
pas.
C'est un exemple. C'est un exemple pour montrer que pas tout peut relever du rationnel. Ben c'est la même chose.
C'est
la même chose. Quand on parle de la croyance, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière, ne rentre pas dans le, ne relève pas du domaine du rationnel. Ça ne relève pas ce domaine. Si ça relevait, à l'époque, ça relevait du domaine du rationnel. À l'époque d'Abraham Avinu, quand il se recherchait, il aurait pu arriver à d'autres conclusions. D'accord ? Il aurait pu faire d'autres pistes. Passer par d'autres pistes et arriver à d'autres conclusions. Mais aujourd'hui, la Emouna ne relève plus du rationnel. La Emouna aujourd'hui est quelque chose d'irrationnel. Et c'est pour ça qu'on a expliqué.
Pourquoi tu dis aujourd'hui ? Parce que ça l'a été à un moment ?
Ça l'a été à un moment, oui. Ça l'a été à un moment. Par exemple, on dit que quand on est sorti d'Égypte, progressivement, le Ham Israël a eu la Emouna à Kadosh Baruch Hu par le côté rationnel, en comprenant les choses.
Mais parce qu'ils avaient vu quelque chose d'exceptionnel.
Mais voilà, parce qu'ils avaient vu quelque chose d'exceptionnel et parce qu'ils pouvaient se l'expliquer. De nos jours, on est dans la génération avant Mashiach. Les choses, nous n'avons pas ce genre de révélation divine. D'accord ? On n'a pas ce genre de manifestation divine. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, on ne peut pas dire qu'on peut expliquer rationnellement que Dieu est là.
Mais eux, ils n'ont pas pu nous l'expliquer.
Moi, je vais vous dire quelque chose de très. Ils peuvent te raconter ce qui s'est passé, mais tu peux toujours remettre en cause ce qu'ils te racontent. Il y avait une fois. Tu l'as pas vécu. Il y avait une fois un grand rave. Je l'avais dit, ça fait quelques mois, ça. Un grand rave. Le rave qui était à l'époque le rave de la Yeshiva de Brunois. Une fois, un élève lui a posé la question, il a dit. Est-ce qu'on a une preuve que Dieu existe ? Qu'est-ce qu'il a répondu, Laurent ?
Donne-moi une preuve que Dieu n'existe pas.
Non, il a dit, estimons-nous heureux
de ne pas avoir
de preuve que Dieu n'existe pas. Estimons-nous heureux. Il n'y a pas de preuve qu'il n'existe pas.
Non, il n'y a aucune preuve, on ne peut pas trouver.
D'accord ? Mais est-ce qu'il y a une preuve qu'il existe ? Une preuve ! Donc, attention, quand je dis une preuve, dans le langage talmudique, une preuve c'est irréfutable. C'est-à-dire que je dis qu'il y a une faille, c'est plus une preuve. C'est une hypothèse.
Il y a eu des preuves.
D'accord. C'est pas une preuve. Est-ce que tu as une preuve ?
Nous,
il y a
non.
Pas de preuve.
Non, mais il y en a eu.
Non. Attends. Parce que justement, même la force.
On est ici dans un cours de Tania,
oui.
Avec des gens qui ont obligatoirement la Emouna.
Ah.
Ils n'ont rien à voir.
Mais c'est quoi la Emouna ?
La Emouna, c'est avoir la foi irrévocable qui a une présence divine.
Voilà. Mais c'est quoi la foi ? La foi, c'est irrationnel. D'accord. Ça, il faut le comprendre.
Maintenant, tu parles d'avoir une preuve irréfutable. Est-ce qu'on a la preuve
irréfutable? Il n'y a pas de preuve. Parce que si tu fais dépendre ta émouna de ça,
faux.
La preuve, c'est que même les grands tzadikim, ils te diront qu'il n'y a pas besoin de preuve. Et au contraire, leur force, c'est qu'ils ont été capables de s'élever au-delà du rationnel, au-delà du sechel, et de comprendre que la émouna, c'est plus fort que ça. C'est pas parce qu'ils ont compris. Parce qu'au contraire, ils ont compris qu'il y a des choses qui sont plus fortes que la compréhension. Et ça, on le vit tous les jours. C'est pour ça qu'un enfant, il a plus de facilité à croire en Dieu que nous. Parce qu'un enfant, il est direct dans l'irrationnel. Il n'a pas encore un cerveau évolué comme nous. Mais nous qui avons un cerveau évolué, plus évolué, progressivement, de plus en plus évolué, alors on veut tout s'expliquer. Mais quand il y a des choses qui ne s'expliquent pas, alors on bloque. C'est pas on bloque, on dit bon, j'ai pas compris. Là vient le rôle du chapitre 18 qui te dit la émouna n'est pas quelque chose qui doit s'expliquer. Ça n'a jamais eu pour vocation de s'expliquer. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir une émouna bête. Je dois quand même essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Je dois faire ce que je peux. Mais la émouna n'est pas basée sur le rationnel. S'il n'y a pas de rationnel, c'est pas grave. Vous prenez une équation mathématique, c'est basé sur le rationnel. C'est-à-dire que si maintenant quelqu'un va venir, il va prouver que cette équation ne tient pas la route, eh ben elle tombe.
Oui.
Parce que c'est basé sur le rationnel.
Et bizarrement, ça s'appelle une théorie.
Exactement.
Et dans d'accord. Théorie,
dans les maths, il y a des failles.
Ah voilà. Dieu. Quand il y a une faille, il y a une faille. Mais la émouna n'est pas conçue pour être expliquée rationnellement. C'est pas fait pour ça. C'est ce qui explique ici longuement. Et donc c'est pour ça qu'il dit ici qu'on voit que la émouna c'est accessible à tout le monde. C'est accessible aux gens intelligents, aux gens bêtes, aux fous, aux enfants, d'accord, aux nourrissons, tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Personne ne peut dire je n'ai pas accès à la émouna parce que chacun à son niveau il peut avoir accès à l'irrationnel. L'irrationnel, si ça dépendait du cerveau, le cerveau peut être certainement plus ou moins évolué. Mais puisque la émouna ne dépend pas du rationnel, tu peux avoir un vieillard de 90 ans qui a perdu sa tête et pourtant il a la émouna. Et c'est pas contradictoire. Parce que perdre sa tête, c'est perdre le rationnel. Mais c'est pas parce qu'il a perdu le rationnel qu'il a perdu la émouna. D'accord? Ça n'a rien à voir. La émouna n'est pas quelque chose de rationnel. Ça, c'est quelque chose qu'on a développé longuement. Maintenant, j'arrive à la conclusion de la semaine dernière. Ça, c'est important. On a dit que puisque la émouna n'est pas liée à quelque chose de rationnel, la émouna, c'est presque un instinct. Un instinct juif. De la même manière que j'ai un instinct de survie, qui fait que quand j'ai faim, qui c'est qui me rappelle que j'ai faim?
Mon ventre.
Est-ce que je dois réfléchir au fait que j'ai faim? Est-ce que je dois réfléchir à 14 heures, j'ai attention, j'ai faim? J'ai besoin de réfléchir au fait que j'ai faim?
C'est involontaire.
Nickel.
Mais c'est un problème physique.
Pourquoi c'est un problème physique? D'accord.
On est habitué à manger tout le temps.
Qui d'accord. Envoie un message systématique qui est conçu comme ça.
Donc j'ai pas besoin de réfléchir.
C'est conçu comme ça.
C'est un instinct.
C'est conçu comme ça.
C'est un instinct que même un bébé qui sort du ventre de sa mère. Est-ce qu'il réfléchit un bébé?
Il a faim, il pleure.
D'accord. Il pleure, il a faim, il veut manger. Ça veut dire que c'est un instinct. Il a faim, c'est un instinct. Respirer, c'est un instinct. Manger, c'est un instinct.
C'est un besoin physiologique.
C'est un besoin, mais donc c'est devenu un instinct.
C'est naturel.
C'est quelque chose que j'ai pas besoin de m'expliquer. Oui. Ça veut dire que j'ai pas besoin de me dire je dois manger, donc je vais manger. Non.
C'est pas toujours les animaux.
J'ai envie de manger, je vais manger. C'est pardon? L'homme aussi a un aspect animal en lui.
Enfin, c'est même pas j'ai envie de manger, c'est que j'ai besoin de manger.
L'envie de manger, d'accord, n'est quelque chose que j'ai pas besoin de réfléchir à ça.
Oui, mais c'est un besoin.
C'est un besoin, bien sûr, c'est un besoin. D'accord. Alors maintenant, on va revenir à la émouna. Il dit la même chose. Il dit en vérité, la émouna, c'est une sorte d'instinct juif. C'est un instinct. Donc si c'est un instinct, normalement, un instinct, c'est quelque chose de primaire. C'est quelque chose qu'on peut pas surmonter. Un instinct, c'est ce qu'il y a de très puissant.
Est-ce que c'est comparable à la émouna que peuvent avoir les goyim?
Ça peut être comparable, oui. Là, on parle de la émouna chez les juifs, elle est plus puissante. Mais c'est ça peut être comparable.
Il y a des goyim qui l'ont vraiment,
bien sûr. Mais chez les goyim, ça peut être plus souvent rationnel.
Oui, parce qu'eux, ils ont, bon. Enfin, ils ont
chez nous, les juifs, on insiste beaucoup sur le fait que c'est pas rationnel. Ça peut s'expliquer rationnellement, alors, on peut faire ça. Mais c'est pas voulu pour être rationnel. Mais je vais arriver à la conclusion générale parce que c'est très important qu'on explique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que, puisque c'est un instinct, la émouna c'est un instinct. Donc normalement, puisque c'est un instinct, c'est quelque chose qui doit être très puissant. Et qu'il peut être surmontable très difficilement. Et d'ailleurs, on a donné l'exemple, on a dit, on voit bien, que lorsqu'on va voir un juif, on lui dit, convertis-toi, rentre dans l'église, convertis-toi, qu'est-ce qu'il va dire?
Je peux pas.
Il va dire non. Est-ce qu'il a le choix de dire non?
Il va dire combien?
Non. Pourquoi il va dire non? Parce que tu vas à l'encontre de son instinct juif. De la même manière qu'il y a un instinct de survie que tu peux pas surmonter, qui est plus fort que tout, de la même manière tu as un instinct de judéité qui fait que quand on dit des choses comme ça, tu peux pas surmonter, tu dis non, je peux pas le faire, il faut que j'ai pas le droit de le faire, j'ai pas le droit de me convertir. Mais là il a posé
l'instinct, il disparaît.
Voilà,
l'instinct de conservation, il disparaît.
Exactement, l'instinct de judéité est plus fort que l'instinct de conservation. Sauf que il y a un problème. Si tu me dis que l'instinct de judéité est plus fort que tout, parce que ça veut dire quoi? C'est quoi l'instinct de judéité? C'est le fait de croire en Dieu, de faire donc ce que Dieu demande. Comment ça se fait que cet instinct de judéité, il se révèle qu'à des moments extrêmes? Comme Kippour, comme le moment où on dit, on va rentrer convertito dans l'église. Pourquoi il se révèle pas dans un moment où on propose de faire une avéra? Normalement, quand on réfléchit en théorie, chaque fois que je fais une avéra, je me sépare de Kadosh Baruch Hu. Donc cet instinct de judéité qui me dit, attention, c'est quoi l'instinct de survie? Bonsoir. L'instinct de survie, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui risque d'atteindre ma vie, qu'est-ce qui fait l'instinct de conservation? Il dit, stop, arrête-toi. Et j'ai même pas besoin de me l'expliquer, c'est plus fort que moi. C'est ça l'instinct de survie. Donc l'instinct de survie spirituelle, l'instinct de judéité, devrait être la même chose. Dès que je sens qu'il y a quelque chose qui risque de me détacher de la Kadosh Baruch Hu, il aurait dû pas seulement me dire arrête-toi, il aurait dû me forcer à m'arrêter. Me forcer mes pieds à m'arrêter et de pas avancer. Et pourtant, on voit que c'est pas le cas. On est d'accord? On fait tous des avérotes. Moi, le premier. Donc, comment ça marche? Pourquoi on fait des avérotes? Si on fait des avérotes, ça veut dire que l'instinct de judéité n'a pas été assez fort. Dans ce cas-là, pourquoi l'instinct de judéité l'arrête le jour de Yom Kippour? Pourquoi l'instinct de judéité l'arrête avant de rentrer dans l'église? Pourquoi il n'a pas arrêté dans l'avérote tous les jours? Qu'est-ce qui change? Manishtana?
Ça remet tout en, jamais remet tout en cause.
Pourquoi ça remet tout en cause?
Si par exemple on arrive au cas où faut mourir pour la Torah.
Une personne que son Yetzara lui dit viens, on va profaner Shabbat.
Non, ça.
Qu'est-ce que tu penses, Mickaël?
Non, mais si on a été dans la tête qu'on profane toujours Shabbat.
Ah, mais non, je parle pas de ça. Je parle d'une personne religieuse, son Yetzara, il lui dit viens ce Shabbat, on fait une exception. Hein?
Non.
C'est pas possible? Bien sûr, c'est possible.
Là, son enfant, il va
repartir. Mais ses parents, ils sont là.
Tiens, on va se taper une bonne.
Voilà.
On va kiffer.
Arrête, hein.
C'est possible?
Non, c'est pas possible. Mais on aura beaucoup
mais
de mal.
Il y a déjà eu des cas.
D'accord. Le Sahara, il peut.
Oui, mais quand tu es face à l'action,
alors,
mon avis.
On fait tous des avérotes. Oublions, d'accord?
Prenez des. Si on est habitué à pas le faire, je pense pas qu'on va le faire.
Prenez des exemples de avérotes. Prenez des exemples de avérotes que vous faites. Pas que vous faites pas.
Ah, attends, quelqu'un qui est sur les rails, peu importe la rail, c'est la rail de la Vera ou la rail de la.
D'accord.
C'est très difficile.
Très bien. Très bien. Prends un exemple, pas de la Vera que tu ne fais pas.
On serait bien.
Prends un exemple de la Vera que tu fais. On fait tous de la Vera. D'accord. Cette avéra que je fais. Alors, je reprends. Cette avéra que je fais, je reprends ma question. Cette avéra que je fais, pourquoi je la fais? Normalement, de la même manière que j'ai un instinct de survie qui ne me laisse pas faire des choses qui sont contraires à la vie, de la même manière, cet instinct de survie spirituel devrait me bloquer avant de faire l'avéra. C'est un problème. C'est là qu'on a dit la chose suivante qu'on va développer longuement aujourd'hui, qu'en vérité, on se fait tous avoir par notre état. On se fait berner par une etc. Mais clairement. D'accord? Ça veut dire quoi? En vérité, théoriquement et logiquement, Béhémet, comment c'est? Transgresser Shabbat, dire la Shanara, se convertir au christianisme. D'accord? Je crois que c'est Eric, mais.
Pourquoi tu précises au christianisme?
Hein? Parce qu'à l'islam, c'est pas la même chose.
C'est vrai?
Ouais.
C'est mieux?
C'est plus proche de nous, oui, bien sûr.
Ça veut dire qu'on peut considérer que c'est moins grave, c'est ça?
Et pas
en fait, on n'est jamais.
De toute façon,
converti.
On
ne peut
pas se convertir.
Non, mais tu te sembles mettre une différence parce qu'il
oui.
y a une gravité.
Bien sûr.
Dans un cas.
Rentrer dans une. Enfin, faut ressortir en vie, mais rentrer dans une mosquée, c'est pas. C'est pas interdit.
Oui, parce que ça se rapproche de plus de notre.
Parce qu'ils sont monothéistes, c'est tout.
Coran et tout.
C'est monothéiste.
Oui, il n'y a pas de représentation.
Ils sont dans l'erreur, mais ils sont monothéistes. C'est pas de problème. On peut être dans l'erreur.
Il y avait Mahomet. Mais...
Qu'est-ce qui se passe là-bas? Tout va bien?
Bon, si tu disparais aussi, je arrive.
Bon, attends, moi aussi.
Je vais rester ici.
Il va être à 4.
Ah.
Non, j'ai juste avancé, cherché un kippa et j'avance un peu.
Ah, d'accord.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et on a des suiveurs.
Plan Vigipirate oblige. Alors.
On a des.
Ok, donc je reprends.
De côté, il n'a pas crié. Hein, donc...
Alors, je reprends. Bonsoir. Donc je reprends. En fait, ce qu'il dit ici, c'est très simple. Il dit normalement, notre Yetzer Hara, il n'aurait pas pu nous avoir. Normalement, on aurait dû dire à notre Yetzer Hara, transgresser Shabbat, dire du Lashon Hara et rentrer dans une église pour se convertir, c'est la même chose. Dans les trois, tu te sépares de Dieu. Dans les trois, au moment où tu fais la vera, tu te sépares de Dieu. Seulement, comment le Yetzer Hara va nous avoir? Le Yetzer Hara va être un argument très simple, qui est faux. Mais c'est un argument qui tient la route dans la tête. Il va te dire, bien sûr, j'ai une avéra, ça. Une avéra. Mais il dit, quand tu fais une avéra, tu restes juif. Il te sort le mot magique. Il dit, ça va, t'es juif quand même. Par contre, quand tu lui dis on va rentrer dans l'église, il dit ah, là je vais arrêter d'être juif. Mais c'est faux dans les deux sens. Parce que est-ce qu'on peut arrêter d'être juif?
Non.
D'accord. Et est-ce que quand je fais une petite avéra, je transgresse la volonté de Dieu?
Oui.
Oui aussi.
Mais le simple...
Ah bien sûr qu'après il y a une dose un peu plus, un peu moins. Bon, vous allez me répondre ça. Mais ça change pas que concrètement, dans la pratique, on se fait berner par le Yetzer Hara. C'est-à-dire le Yetzer Hara, il dit, là tu arrêteras d'être juif, là tu n'arrêtes pas d'être juif. Moi, ce que j'aurais dû répondre au Yetzer Hara, c'est que je n'arrête jamais d'être juif.
Mais
le problème, c'est quoi? C'est qu'on se fait tout savoir par le Yetzer Hara.
Mais il fallait savoir qu'on arrêtait jamais d'être juif.
Oui, encore faut-il le savoir, d'accord. C'est vrai, t'as raison.
Franchement, je ne viens pas au cours de ta mère, je ne peux pas savoir que...
C'est lui ou c'est...
Comment ça s'appelle?
C'est l'huile d'enfant.
À une religion X ou Y.
Il arrête d'être juif.
Il arrête d'être juif.
T'as raison. Vas-y, Al-Khaï. Baouk, on a donné le nom de l'homme chez Amen.
Ah, c'est
fou, pouvait pas, même quand on était converti, on restait juste.
Impossible.
C'est
bon, sinon,
c'est ce qu'on dit.
On peut pas, arrêter. Et donc, qu'est-ce que dit la Gemara? D'accord? La Gemara a dit, donc je suis en train de développer, il dit ici que, en vérité, normalement, on aurait dû tous tenir devant le Yetzer Hara. Pourquoi on n'arrive pas à tenir comme on a expliqué? Parce que le Yetzer Hara, il nous trompe. Il nous fait croire que c'est pas grave. Pas que c'est pas grave. Mais il te fait croire, tu dis, c'est pas grave. C'est ça veut dire comme ça. Comme par exemple, il y a des choses qu'un mari, il va faire envers sa femme. Des choses pas bien. D'accord? Il va manquer de respect par-ci, par-là. Il va parler comme ci, il va parler comme ça. Il le fait. Mais d'autres choses, il fera pas. Pourquoi d'autres choses, il fera pas? Il dit, non, parce que là, ça voudrait dire que je suis plus marié. Mais c'est faux en vérité. C'est-à-dire, soit tu respectes, il faut respecter à 100%, soit tu respectes pas. Seulement quoi? On se fait une sorte de, ça veut dire que ce qu'il veut expliquer ici, c'est que, instinctivement, on se crée une sorte de raison dans la tête.
Non, c'est pas la raison, c'est... Là, l'exemple que tu viens de prendre, bon, j'ai compris, je vais voilà. Arriver. Et l'exemple que tu viens de prendre, ça enlève la nuance.
Voilà.
Il y a des gens qui sont avec, qui peuvent pas être tout blanc ou être tout noir. Ils aiment naviguer dans le gris.
Ça, c'est à part ça. D'accord, mais c'est-à-dire qu'à part ça, pour eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est très fréquent qu'on se donne une raison. Et ça, c'est très fréquent. Ça veut dire, même quand une personne va faire une avéra, il va dire, oui, j'ai fait l'avéra. Mais, il n'y a pas mais. Mais, c'est le classique. J'ai fait l'avéra, mais. Je m'excuse, mais, pourquoi mais? On dit pas mais. Quand tu dis mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en c'est vérité, tu t'excuses pas à 100% et que tu regrettes pas vraiment ce que tu as fait.
Une excuse pour ça.
Voilà le piège du Yetzer Hara. C'est ce qu'il dit ici. D'accord? Donc dans les mots. Alors, ici.
Au final, c'est juste pour avoir un peu plus la conscience d'Akadosh Baruch ou quoi?
Au final, pardon?
Au final, c'est une réflexion pour avoir un peu plus la conscience d'Akadosh Baruch.
Non, une bonne conscience.
La conscience, ça veut dire la conscience.
Ça veut dire comme ça.
Ça veut dire qu'il est là.
On l'a déjà la confiance d'Akadosh
Baruch.
La conscience. On l'a déjà.
Non, mais là, tu veux te donner conscience.
Si
une bonne conscience.
Pour révéler un peu plus la conscience d'Akadosh Baruch.
Exactement. Exactement. Pour révéler un peu plus la confiance. Mais en fait, le travail qu'on fait dans la vie progressivement, ce qu'on va expliquer ici maintenant, c'est d'essayer de réaliser chacun dans notre vie que même la petite avéra que je fais me sépare de Dieu. Et donc, progressivement arriver à la conclusion que faire cette petite avéra, c'est aussi grave que me convertir au christianisme. C'est aussi grave. Même si, dans ma tête, c'est pas aussi grave, mais dans l'idée, c'est la même chose. Je me sépare d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un début du Tanya. C'est d'essayer, en fait, de faire un travail de communication pour s'expliquer à soi-même que même la plus petite avéra est grave. Pour ne pas tomber dans le panneau du Yetzer Hara. Alors, je dis pas qu'après le Tanya, on va devenir des tzadikim. Non. On appelle Sefer chez Benonim. On restera des Benonim. Mais au moins, hein, ça va nous aider un petit peu à parler à notre Yetzer Hara. C'est déjà pas mal. Apprendre à parler à ton Yetzer Hara, parce que ton Yetzer Hara, lui, il te parle. Lui, il te parle, ton Yetzer Hara. Lui, il te parle. Il te dit, t'inquiète pas, c'est pas grave. Il faut apprendre à lui dire, oui, c'est grave.
Mais après, il y a des niveaux. Il y a des choses qu'on peut récupérer.
Il y a des quoi?
Il y a des choses qu'on peut plus refaire.
D'accord. Ah voilà, tu vois encore un autre piège.
Comme tu dis, se convertir.
Tu vois, encore un autre piège. Encore un autre piège du Yetzer Hara, ce qu'il va développer après. Il dit, ce qui peut arriver, c'est quoi? C'est que lorsqu'une personne, on va lui dire, va te convertir. Il se dit, je vais atteindre un point de non-retour.
Voilà, exactement.
C'est possible de revenir en arrière.
Ben voilà.
D'accord. Point de non-retour. Pas seulement point de gravité. Point de non-retour. Alors, quand il fait sa petite avéra, il dit, ça va, je pourrais retourner. Je connais la route de retour.
Ou je la referai pas après.
D'accord.
Ou tu peux.
C'est pas que je compte dessus, mais bon, je connais la route du retour. Donc, je fais un petit écart, mais je connais la route du retour. J'ai vu, je vois où est la route. Alors que, si vous voulez, quand il va rentrer dans l'église, il a l'impression que c'est la falaise. Il va tomber là-bas, tu peux plus revenir.
Voilà,
c'est mais c'est faux, en vérité. Les deux sont une falaise.
Oui, parce que tu as dit la semaine dernière qu'on restait juif, quoi qu'il arrive.
Ben oui, les deux sont une falaise. Ou les deux sont une falaise, ou les deux, c'est du plat. Alors, c'est quoi le pchat? Le pchat, c'est qu'on se va pour le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il va nous berner, comme on dit ici. Donc, dans les mots.
Menu. Mais l'islam, c'est aussi. En fait, c'est pire que le christianisme. Parce que là, en ce moment, avec ce qui se passe, il y a le
djihad. Pire.
Je sais pas. Et donc après, en fait, c'est comme si on se battait contre nous-mêmes.
Tu sais, dans l'histoire, les Arabes nous ont accueillis beaucoup mieux que les chrétiens. Hein.
Ah, mais là, à ce moment-là, par exemple, le
djihad. C'est récent, hein, ça, c'est récent qui a changé.
Voilà. Là, ils veulent.
On était relativement bien accepté par rapport à ce qui s'est passé chez les chrétiens.
Autres, on fait des conversions forcées.
Oui, mais c'était beaucoup plus chez les chrétiens.
Si on parle de temps, ouais. Les chrétiens ont mis 2000 ans pour nous taper dessus, les musulmans que 1400 ans, hein, donc ouais. 600 ans, c'est-à-dire ça marque.
C'est-à-dire, si on leur laisse encore 600 ans, ils peuvent faire pas mal de ravages. Ouais. Si on leur laisse 600 ans encore, je pense qu'ils peuvent faire de ravages.
Ils ont rattrapé le retard. Bon.
Déjà qu'on leur donne 7 ans d'après Houellebecq, là, ils peuvent.
Alors, dans les mots.
Houellebecq, il a dit Houellebecq.
Oui, il est sorti un livre aujourd'hui, il n'arrête pas d'en parler partout.
Alors, on va relire Rabotaï. On va relire quelques lignes. Juste, on va terminer juste en quelques lignes le chapitre 18. Après, on passe au chapitre 19. Rabotaï. En bas de la page 242. Velachen, c'est pour ça. Afilou kalche bekalim poche Israël. C'est pour ça que même une personne qui est parmi les plus légères, ça veut dire même une personne qui est très loin de la Torah, qu'on appelle un léger parmi les légers. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ou pocher Israël, même un fauteur d'Israël, c'est-à-dire des gens qui étaient des réchaïnes dans la vie de tous les jours, Mosrim Nafsham Akedushat Shemoïd Barer. On voit qu'en général, bien sûr, à l'Arabe, on a des exceptions, mais en général, ils ont donné leur vie pour Dieu. Pourquoi? Vestovli Minoim Kashim. En plus que ça, pas seulement qu'ils ont donné leur vie pour Dieu. Ils vont être prêts à souffrir des mortifications très très difficiles. Ça veut dire que c'est pas juste on l'a pris, on dit bon, on va te tirer une balle, on va te tuer. C'est qu'on les a fait souffrir, et qu'à chaque moment où on les a souffrir, ils pouvaient dire non, arrêtez. Et ils l'ont pas fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a un instinct chez le juif qui est plus fort que l'instinct de conservation. C'est quoi? C'est l'instinct du déité. Et ça, l'histoire nous l'a prouvé, ça. C'est pas de la théorie, tout ça. L'histoire nous a prouvé qu'il y avait des gens qui étaient très, 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 très loin. Et pourtant, dès qu'est arrivé l'instant dans lequel on dit « alors convertis-toi », ils étaient prêts à subir des souffrances énormes pour ne pas quitter Dieu. Pourquoi dans ce cas-là? Comment on peut expliquer? Chez l'Olir Parba Hashem Echad, surtout pas ne pas nier en le fait que Hashem Echad y a un seul Dieu. Comment c'est possible?
Daniel Pearl.
Alors il dit, exactement. Des gens, plein de gens comme ça, qui se sont dit, je suis juif et je meurs comme un juif, la fierté du juif. Et ils auraient pu atténuer leur souffrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'il veut dire ici, c'est que... Ouais. Alors dans les mots. Il dit, Ve'af im'em, même s'ils sont bourrim, ve'amea aretz, même si ces gens-là sont très souvent des gens qui sont ignorants, et qui ne connaissent pas la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas des érudits, c'est pas des rabbins, ces gens-là. Ces gens, quand on vous dit qu'ils ont donné leur vie, c'est pas forcément des érudits. Ça peut être des gens, des ignorants qui connaissent rien du tout. Et même le peu qu'ils connaissent, qu'ils ont appris dans leur jeunesse, ils réfléchissent rien du tout à ça. C'est rien. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont aucune connaissance, aucune réflexion. Ça veut dire qu'on peut pas dire que ces gens-là, ils ont donné leur vie à Dieu parce qu'ils ont compris qu'il fallait donner leur vie à Dieu. Parce que c'est des gens qui n'ont jamais réfléchi à ça et qui ne comprennent pas ce que c'est redonner sa vie pour Dieu.
Ils savent même pas finalement sur leur...
Ils savent même pas ce que ça veut dire. C'est ça, c'est ce qu'il veut prouver ici, le Tania. Il veut te dire que si c'était quelque chose de rationnel, ça aurait dû arriver seulement, donner sa vie pour Dieu, ça aurait dû arriver seulement à des gens posés et réfléchis. Or, dans l'histoire, on a vu clairement que ça s'est passé chez des gens qui n'étaient pas du tout connaisseurs, qui n'étaient pas du tout érudits, qui ne réfléchissaient pas du tout. Ça veut dire que c'est des gens qui ne réfléchissaient pas. Donc c'est une preuve qu'on ne donne pas sa vie à Dieu parce que on a compris qu'on doit le faire. On donne sa vie à Dieu parce que c'est un instinct, et donc ça veut dire qu'on touche tout de suite à l'irrationnel, comme on a expliqué longuement. Et là, blishum dadit bonenum. Ces gens-là ont donné leur vie à Dieu sans aucune raison, sans aucune réflexion. Même pas, il y a eu un instant dans lequel il dit, je le fais, je le fais pas.
Finalement, c'est eux qui ont décidé.
Exactement, ils n'ont pas décidé.
Ah, c'est ça.
C'est plus fort qu'eux. Ils peuvent pas décider.
Blishum dadit
bonenum. Blishum ta'am vetana umane klal. Vous savez, quand c'est quelque chose de rationnel, je dois me l'expliquer. Quand je dois me l'expliquer, je dois peser le pour et le contre.
Là,
et même quand c'est évident, mais quand quand même c'est difficile, je me pose la question. Je me dis, mais attends, mais est-ce que tu es sûr que tu fais le bon choix? Mais là, on a affaire à des gens qui n'ont jamais réfléchi à ça. Et pourtant, dès qu'arrive l'instant T, ils ont donné leur vie pour Dieu. Sans se poser la question, sans même partir avec un argument envers Dieu, de dire, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Les gens, dans tous les témoignages qu'on a, et on a malheureusement beaucoup de témoignages, et ces témoignages ne sont pas seulement des juifs, ils étaient impressionnés comment les gens qui donnaient leur vie pour Dieu, ils partaient dans la sérénité. C'est impressionnant. Et on a eu des exemples. On a eu des exemples dans notre génération. Prenez un exemple comme Eli Cohen. D'accord ? Prenez un exemple comme tu as donné l'exemple de Daniel Pearl. Plein d'exemples comme ça qu'on a eu malheureusement, des gens qui on les a poussés jusqu'au bout. Et les bourreaux étaient déconcertés par la sérénité qu'ils avaient. Et ça, vous pouvez le voir. Malheureusement, il y a des photos qui ont été prises et tout. On peut le voir. On peut le voir, la sérénité qu'ils avaient. Parce que qu'est-ce qu'il veut dire ici ? Si c'était quelque chose qui a été subi, d'accord, et que rationnellement, il est contre ça, il aurait dû le montrer dans son comportement. Il aurait dû le montrer qu'il n'est pas content. Il se dit, attendez, je me convertis, je fais des choses. Non. C'est pas seulement qu'il le fait parce qu'il doit le faire. Il le fait, il est pleinement dedans. C'est de la même manière qu'il respire, de la même manière qu'il donne sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Sans aucun argument. Ça veut dire que ça, c'est une preuve que donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu, donc être juif, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est quelque chose qui est clairement lié à l'irrationnel. Donc,
voilà. Est-ce que l'inverse démontre le contraire? D'accord.
Est-ce que quoi?
Est-ce que l'inverse démontre le contraire?
Si c'était quelque chose de rationnel,
dans ce cas-là. C'est-à-dire, imagine des gens, voilà, qui finalement, face à ça, se sont dit, ok, je vais me convertir, ok, je vais.
Ok, je vais me convertir.
Ok, je vais faire, ok, je vais faire.
Alors, je vais te donner un exemple. Le Rav Stenzel, dans son livre sur le Tanya, il raconte une histoire pour illustrer la réponse que je donne à ta question. Il dit comme ça. Il dit, il y avait une fois un juif en Hongrie qui s'est, bon, il est en train de donner des complications avec des femmes et de l'argent. Des grosses complications. Et donc à la fin, on l'a mis, bon, on l'a jugé, etc. Et la dernière option qu'on lui a donnée, on lui a dit, tu peux être sauvé si tu vas te convertir. Il s'est converti. Et c'est devenu un des nobles en Hongrie. On a les noms, hein. C'est devenu quelqu'un, un noble en Hongrie. Et quelques années plus tard, il y a eu une fois, ce qui était fréquent malheureusement à l'époque, qui arrivait de temps en temps, Alilat Dam. C'est quoi Alilat Dam? Ça veut dire qu'on disait que les juifs avaient utilisé le sang d'un enfant, enfant chrétien pour faire les matzot. Donc ce qu'on appelait le crime rituel. Alors, l'histoire raconte, écoutez bien, celui-là, d'accord, mais c'était complètement bête. Mais c'était un mobile qui servait, parce que quand on faisait ça, il y avait des pogroms qui sont suivis dans la Israël,
pour les chrétiens. Pour invoquer un pogrom.
Exactement. Il y avait toujours un meneur.
C'est surtout pour justifier des crimes commis.
Voilà.
Pour justifier des crimes commis.
Bon, le problème, c'est que le peuple était un peu bête, donc le peuple, dès qu'il entendait ces mots-là, ça y est, les cheveux, ils partaient. Écoutez cette histoire. Ce juif, d'accord, ce juif. Donc comment il s'appelle ce juif-là qu'on a parlé ici.
Converti.
Il s'était converti. Et il était un des nobles de l'Hongrie. Et quand il y a eu ce jugement, d'accord, il est venu. Il a abandonné toute sa fortune. Il a dépensé toute sa fortune, son statut, sa vie, pour casser cet argument-là, pour dire mais non, c'est impossible, les juifs ne peuvent pas faire ça. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que ce juif-là, il était déjà converti officiellement, d'accord. Il était déjà converti officiellement et il l'a fait. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, maintenant, dès qu'il arrive une situation comme ça, il a mis tout de côté et il est revenu? Parce que ce qu'il dit, le Rav Stenzel, pour répondre à ta question, il dit ce qui peut arriver, c'est que chez certaines personnes, ils ne réalisent pas la gravité de se convertir. Tu comprends? Et donc, il s'est converti mécaniquement. Mais des fois, des années plus tard, il rencontre une épreuve qui lui réalise l'ampleur de ce qu'il fait, réaliser l'ampleur de ce qu'il a fait, et là, il fait un blocage, et là, il arrête. Tu vois ce que je veux dire? Exactement ce qui se passe dans cette histoire. C'est-à-dire que tu peux pas le juger au moment même. Des fois, au moment même, bon, on l'a tellement manipulé qu'il fait les choses machinalement. Il n'a pas vraiment réalisé ce qu'il fait.
Ouais, mais enfin, quand, s'il est devant une potence ou un fusil, non, marins, là, c'est pas.
Mais non, il a bien. C'est pour ça qu'il a précisé ici l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, il a précisé. Alors.
Finissent toujours un jour par réaliser.
L'Admor HaZaken, il a précisé ici à la robe, pour répondre à ta question. Il a dit en général. Ça veut dire que la réaction qu'on a dit, que normalement, on a donné sa vie pour ne pas quitter Dieu, c'est une réaction qui est en général. Dans la majorité des cas. Il y a eu des exceptions. Il y a des exceptions. Mais dans la majorité des cas, ils sont partis sereinement. Et ce n'est pas des gens qui étaient religieux. Ce n'est pas des gens qui étaient religieux dans la vie tous les jours. Ce n'est pas des gens qui mettaient les tefillines tous les jours. Ce n'est pas des gens, je ne sais même pas s'ils faisaient Shabbat. Merci. Et pourtant, quand ils sont partis, ils voulaient partir comme des juifs. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi? Puisqu'ils ne veulent pas les tefillines, alors qu'est-ce qui l'empêche de dire, bon, j'en ai rien à faire, c'est du pipeau, c'est habitude, blabla, ça ne marche pas. Parce que c'est là qu'on montre ici, il veut prouver ici, que être juif, avoir la mouna à Kadosh Baruch Hu, c'est pas lié au rationnel. C'est quelque chose qui est clairement lié au-delà du rationnel. Et c'est pour ça que ces gens-là, quand ça arrive, ils ne cherchent pas à se poser de questions et à s'expliquer. Il n'y a aucun argument. Vaïnou Mishum, Shachem Echad Meir ou Mechaye Kol HaNefesh. C'est très puissant ce qu'il dit ici. Il dit, vous savez ce qui se passe dans un moment comme ça? Dans un moment comme ça, hein, s'il y a un moment dans lequel c'est comme si la Nechama s'allume. Et tu as une telle clarté que tu es sûr que ce que tu fais, c'est ce que tu dois faire. Mais non, ça ne veut pas dire qu'il y aura un miracle et que Dieu va envoyer un ange et qu'il ne va pas mourir.
Non, mais il est transcendé.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas en train de dire que Dieu va faire un miracle, on va envoyer un ange, hop, il va le prendre, il va pas mourir. C'est pas ce que j'ai dit. Il va mourir. Mais il va mourir en sereinement, en se disant, j'ai rien fait, quelque chose que je devais pas faire, j'ai pas de raison pourquoi je suis mort, et donc, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, et c'est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il meurt la tête haute. La tête haute dans le sens, il meurt pas la tête basse comme un animal. Ça, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, vous savez que quand c'était pendant la Shoah, comment ils sont, malheureusement, même ceux qui devaient partir, très souvent, il y a des témoignages, ils s'encourageaient entre eux pour essayer de ne pas tomber dans le piège que leur faisaient les Allemands, à savoir les Allemands faisaient tout pour qu'ils soient considérés comme des animaux. Parce qu'on les traitait comme des animaux. D'accord ? Vraiment, comme des animaux. Et il y avait beaucoup, entre amis, quand ils essayaient de s'encourager un petit peu, même s'ils avaient compris qu'ils allaient mourir, ils essayaient de s'encourager pour aller la tête haute. Pas la tête haute dans le sens, la tête haute dans le sens que comprendre dans la tête que tu n'as rien fait. T'es pas un rat, tu n'as rien fait, t'es quelqu'un de bien, et que toi tu as fait ce que tu devais faire, et c'est bien d'être juif. Et partir sereinement, c'est très important ce qu'il dit ici. Ça veut dire, il dit que ça, c'est quelque chose que dans un moment comme ça, il y a un éveil de la Neshama qui te donne une sensation de sérénité profonde, que personne ne peut comprendre. Celui qui n'est pas passé par ça ne peut pas comprendre. Tant que Baruch HaShem, nous, on n'est pas passé par ça. Une personne qui n'est pas passée par un moment comme ça, dans lequel il était devant la potence, il peut pas comprendre ce que ça veut dire avoir une sérénité profonde que Dieu t'amène. Cette sérénité vient de la Neshama. En vérité, on aurait dû avoir cette sérénité chaque fois qu'on dit non au Yitzhara, mais on se fait avoir, on se fait avoir pour la Yitzhara, ce qu'il dit ici.
Bon, tu me fais penser à quelque chose, je me dis.
Oui.
Avant, on disait, je sais pas si ça se met encore, c'est quand il y avait une personne qui était très malade, une personne âgée, elle était pas bien, je sais pas, elle avait une maladie. Il y a un moment de partir, je sais pas, une ou deux heures avant, tu la voyais, tu avais l'impression qu'elle était bien.
T'es serein.
Ouais. C'est sûr. Qu'elle était guérie, que.
T'es bien.
Ok, souvent, t'es bien.
N'en dis pas.
Souvent, ça arrive souvent, ça. Là, tu ouais. te sens. C'est pas qu'il souffre plus, mais c'est-à-dire ouais. que tu sens qu'il est bien, quoi.
Il va partir bien.
Hein léger. Léger, exactement, léger. Ça veut dire qu'on peut souffrir concrètement. Il va mourir, cette personne-là. On va le tuer, ils l'ont tué. Mais on l'a tué, mais il a gardé le cœur léger.
C'est fait une raison.
D'accord. C'est pas. Non.
Non.
Il s'est pas fait une raison. Se faire une raison, ça veut dire qu'il y a eu un argument dans la tête. Pour, contre. Là, il ne s'est pas fait une raison. Il n'a pas besoin de se faire une raison.
Non.
Il arrive à une situation que tu te sens serein sans comprendre toi-même pourquoi tu l'as fait. Il y a des choses comme ça, des fois, ça nous arrive dans la vie. Tu fais quelque chose, tu sens que tu fais une bonne chose. Tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi. Tu comprends ce que je veux dire ?
Ouais.
Je te donne un exemple. À Kippour, tu es bien ou tu n'es pas bien à Kippour ? Tu te sens bien à Kippour ?
Non, je ne pense même pas.
Il n'est pas bien.
Au-delà de la nourriture, pourquoi tu es bien à Kippour ? Pourquoi on se sent bien à Kippour ? Parce qu'on a été pardonné.
Non, parce
non.
On est allumé.
Parce qu'on est bien. C'est tout, on est bien. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. T'es pas bien que parce qu'on t'a pardonné. Alors c'est vrai, on t'a pardonné, t'es bien. Bon, ok. Dans ce cas-là, fais la fête. Pourquoi t'es bien ? Parce que t'es bien, c'est tout. Je suis bien, je me sens proche de Dieu. Je suis bien. Quand tu prends ton fils sur tes bras, tu te sens bien ?
Bien sûr.
Pourquoi tu te sens bien ? Et pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et pas pourquoi, je suis bien, c'est tout. J'ai bien expliqué. J'ai pas besoin d'expliquer, c'est comme ça. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme ça dans lesquels Akadosh Baruch Hu, il nous fait ressentir le bonheur d'être juif. Même si on va souffrir, mais au moins tu as ce bonheur-là. Et ça, c'est quand tu sais, tu as tout. C'est ce qu'il dit ici. Alors, en passant, maintenant je voudrais quand même faire une petite parenthèse très importante. Le Ham Israël, on n'est pas le seul peuple qui donne sa vie pour un idéal. On est d'accord ?
Il y en a qui nous ont dépassés.
Il y en a même qui nous ont dépassés, comme il dit. D'autres peuples qui nous ont dépassés. Prenez un kamikaze. C'est quoi un kamikaze ? Qu'est-ce qu'il dit un kamikaze ? C'est un fou. Mais qu'est-ce qu'il dit dans sa tête ? Non mais sérieusement, je suis sérieux. Alors, mais, il peut être serein, bon, il peut être shooté aussi, mais alors...
Ah, moi je pense qu'il est shooté.
Attendez, écoutez bien. Qu'est-ce qui se passe avec le kamikaze ? Il a décidé de donner sa vie. Oui ?
Dieu l'a donc pour une cause.
Ah !
Celui-là c'est rationnel.
Écoutez bien. Très important ce qu'a dit M. Benita.
Mais quelle cause ?
L'homme Israël, on n'est pas le seul peuple qui donne... Écoutez bien. L'homme Israël, on n'est pas le seul peuple à donner la vie pour une cause. Il y a eu d'autres peuples qui donnent leur vie pour des causes.
Attends,
on a eu des kamikazes japonais.
Excuse-moi.
On a eu des kamikazes... Attendez. Je vais arriver au bout du raisonnement. On a eu des kamikazes japonais. On a eu des gens qui ont donné leur vie parce qu'ils disaient que la Terre était ronde et que c'était contre les croyances de l'époque. Ils ont donné leur vie pour ça, ils sont morts pour ça. D'accord ? Imaginez quelqu'un qui a donné sa vie pour ça. On a eu des gens qui ont donné leur vie, je sais pas moi, parce que, comme ce qu'il y a aujourd'hui, comme les Arabes, mais il y a une différence. Une différence très simple. C'est que dans toutes les autres religions, quand on donne sa vie, c'est parce qu'on a fait un calcul qu'en donnant sa vie, on allait obtenir plus que si on donnait pas sa vie.
Ben oui.
C'est un calcul.
C'est la promesse de...
D'accord ? Donc par exemple, quand par exemple une personne, Voilà, on a dit celui-là, d'accord. Justement, j'arrive. Quand par exemple, je comprends, quand par exemple tu as une personne qui disait que la Terre est ronde, et qu'à quelle époque, ben non, on disait que la Terre était pas ronde, et qui va donner sa vie pour ça. Il sait qu'il va mourir. Mais il se dit, par ma mort, je vais obtenir plus que par mon vivant, parce que par mon vivant, on me croit pas. Peut-être que quand les gens vont voir que je vais mourir, que je suis prêt à donner ma vie pour ça, ils vont se dire, celui-là, il y pense vraiment. Et regardez la preuve, c'est quoi la preuve? C'est qu'il a raison, aujourd'hui on en parle. Il a fait plus de bruit dans sa mort, enfin, que de son vivant.
Il n'est pas mort, mais il a
été. Oui, d'accord. En tout cas, ça veut dire qu'une personne comme ça, il pense faire plus de bruit par sa mort que par son vivant. Donc même s'il est prêt à donner sa vie, c'est pas qu'il a donné sa vie pour autre chose, non. C'est qu'il y a une cause, il y a eu un calcul, il a fait un calcul très simple, il s'est posé la question qu'est-ce qui est plus rentable, et il est arrivé à la conclusion que donner sa vie, c'était plus rentable que vivre. Il arrive à ce calcul-là. Pareil, quand vous prenez par exemple des kamikazes, d'accord, kamikazes japonais ou ce que vous voulez. Attendez,
non, c'est
très bien. Attends, je suis en train d'expliquer. Quand tu prends par exemple un kamikaze japonais, pour pas parler des arabes, heureusement qu'on n'a rien à voir. Quand tu prends par exemple un kamikaze japonais, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le kamikaze japonais, il se dit que c'est vrai que moi je vais mourir, mais pour servir ma patrie, pour servir mon pays, ben je vais plus servir en mourant qu'en étant vivant.
Et il aura les honneurs de la mort.
Et même sans les honneurs. Oublions les honneurs, même s'il n'aura pas les honneurs. Il se dit, c'est une manière pour moi de servir ma patrie et que je serai plus rentable.
Comme ils ont fait.
Je serai plus rentable. On réfléchit en termes de rentabilité.
Ceux qui sont partis.
D'accord?
Oui, mais attends, il y a donné sa vie.
Alors, justement.
En enlevant d'autres vies.
Attendez, j'ai pas fini. Je serai plus rentable en donnant ma vie. D'accord? En me tuant qu'en étant vivant. Il y a des gens aussi, par exemple, qui sont prêts à se suicider pour ça. Sans tuer personne d'autre. Pourquoi? Non, mais j'ai pas dit qu'ils ont droit. J'explique ce qui se passe dans le monde, dans le grand monde. Il y a des gens qui sont prêts à se suicider. Pourquoi ils vont se suicider? Ils vont dire comme ça. Les gens, ils vont comprendre ce que je pensais. Mais encore une fois, il a réfléchi en termes de rentabilité, en termes de raison. D'accord? La différence qu'il y a avec la Torah, c'est que dans la Torah, on n'a pas le droit de donner sa vie. On n'a pas le droit de se tuer. Dans la Torah, Messirut Nefesh, c'est pas mourir pour Dieu. C'est vivre pour Dieu.
Ouais, mais là, tout à l'heure, vous avez dit le contraire.
Justement.
Attendez.
Ça veut dire quoi? Je vais donner un exemple très simple pour illustrer ça.
La vie nous appartient.
Abraham Avinu. Vous allez voir un exemple très simple. Before, after. Voilà, comme c'est la mode aujourd'hui. Before, after. Avant, après. D'accord? Alors, on va dire les Chayim. Voilà. On va prendre un exemple très simple. Abraham Avinu. On parle beaucoup d'Abraham Avinu, de l'importance qu'Abraham Avinu, il était prêt à donner son fils en sacrifice. D'accord? Attends.
Il a eu le téléphone.
C'est pas la première fois que ça s'est passé dans sa vie. Abraham Avinu, une fois, quand il était Ur Kasdim, Nimrod, d'accord, le roi de l'époque, il lui a dit arrête tes histoires. Il voulait pas s'arrêter. Alors, Nimrod lui a dit, on va te jeter dans la fournaise. Avraham a dit, j'ai pas peur, jette-moi dans la fournaise. On l'a pris, on l'a jeté dans la fournaise. Donc c'est fait, il y a eu deux épisodes qui sont passés avec Abraham Avinu. Premier épisode, on l'a jeté dans la fournaise et il s'en est sorti. Deuxième épisode, il était prêt à donner sa vie, il était prêt à donner la vie de son fils. Curieusement, écoutez bien, la Torah, quand je dis la Torah, ça veut dire la Bible, ne parle pas du premier épisode. L'histoire ne parle pas du tout. Il y a une allusion comme ça, mais vraiment une allusion, d'accord? La Torah ne parle pas du premier épisode, de l'épisode dans lequel Abraham Avinu s'est jeté dans une fournaise. Pourquoi elle parle pas de ça, vraiment, la Torah?
Enfin, il s'est pas jeté.
On l'a jeté, en tout cas, oui. Il s'est laissé jeter.
On l'a jeté. Sûr,
pourquoi? Pourquoi la Torah n'en parle pas?
D'ailleurs,
le rabbi dit, c'est très simple. Il dit, la réponse est très simple. Il dit parce que la première fois qu'Abraham Avinu a donné sa vie, on pouvait expliquer qu'Abraham Avinu a réfléchi, j'ai pas dit qu'il a réfléchi comme ça, mais on aurait pu expliquer qu'il a réfléchi en termes de rentabilité. Il s'est dit, moi, mon but, c'est d'être monothéiste et de diffuser le monothéisme. D'accord? Et pour diffuser mon message, une des méthodes, c'est en montrant que je suis prêt à donner ma vie. Et ça va faire un buzz. Les gens, ils vont parler, ils vont dire, t'as vu, il était prêt à mourir pour ça. Donc c'est un calcul. Donc c'est pour ça que la Torah n'en parle pas, parce que c'est pas ça, Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est pas un calculateur qui se dit, je vais donner ma vie et je vais gagner plus en donnant ma vie qu'en étant vivant. Non. Dans le deuxième exemple, ce qui était particulier, c'est qu'il y a eu un projet. Ça fait déjà plusieurs années, plusieurs décennies. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu auras une descendance, Yitzhak sera ta descendance, c'est ton fils unique, tu auras une grande descendance comme les étoiles. Yitzhak n'est pas marié encore. Et là, un beau jour, Dieu, il vient, il lui dit, Yitzhak, prends-le, tu vas le tuer. Tu fais tout tomber à l'eau, tout ce que Dieu, il a dit. Pas seulement je fais tout tomber à l'eau, ce que Dieu a dit, il pourra peut-être donner un autre fils. Comment vont réagir les gens quand ils vont entendre ça? Je vais dire, mais c'est ça ton Dieu? C'est ça ton Dieu? Ton Dieu, c'est ça ton Dieu? Quelqu'un qui te demande 40 ans, tu prends ton fils, tu le tues? T'es fou ou quoi?
40 ans.
D'accord, à 40 ans? Mais c'est impossible que les gens, quand ils vont entendre ça, ils vont vouloir se rapprocher du monothéisme. C'est sûr qu'Abraham Avinu, quand il a entendu ça, il aurait dû dire à Dieu, mais attends, Kadosh Baruch Hu, les gens, moi ça me dérange pas de le faire, mais les gens, ils vont parler. Les gens, ils vont parler. Ils vont dire, mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Alors qu'est-ce que fait Abraham Avinu? Il aurait pu dire, bon, tant qu'à faire, puisque Dieu me le demande, on va faire un buzz. Mais le problème, c'est quoi? C'est comment où ça se passe? Abraham Avinu, quand il a avec le couteau de la chrétienne devant son fils, il est tout seul. Il n'y a que lui et son fils. Il n'y a même pas les médias, les télés qui sont là pour filmer. On va voir comment il a tué son fils. Rien du tout. Ça veut dire qu'on a enlevé tout le côté buzz qu'il y avait dans le Our Kasdim. Dans la fournaise, il y avait un buzz, il y avait du monde autour. Donc ça fait du bruit, ça. Ce bruit-là, ça se monnaie, c'est rentable, ce bruit. Le bruit, c'est rentable. Même la mort, le bruit de la mort, c'est rentable. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a personne. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de télé, il n'y a personne. Même Eliezer, le serviteur, on a dit, toi, tu restes en bas de la montagne. Donc il n'y a rien. Là, quand on le fait, c'est du net pour un Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'aïmouna d'un juif. L'aïmouna d'un juif, c'est qu'il est prêt à donner sa vie pour un Kadosh Baruch Hu, même quand, en termes de rentabilité, il n'y a rien à gagner. C'est pas grave. Même si en termes de rentabilité, il n'y a rien à gagner, Dieu m'a demandé, je le fais. Et ça, c'est la différence fondamentale qu'il y a entre nous et les autres. C'est que chez nous, on réfléchit jamais en termes de rentabilité. On peut avoir une rentabilité, des fois. Les gens, ils ont parlé, par exemple. Les trois dons, c'est ça, parce que les goyim, ils ont parlé.
C'était en termes de rentabilité.
On peut avoir des termes de rentabilité. Par exemple, un goy, il peut voir, il peut dire, t'as vu, il était prêt à donner sa vie pour son Dieu, ça veut dire que c'est important. Il peut avoir aussi une rentabilité. Mais c'est pas ça ce qui pousse la personne à faire ce qu'il doit faire. On réfléchit pas en termes de rentabilité. Ça veut dire que pour celui qui va donner sa vie pour Dieu, pour un juif, ça lui changera rien si on l'a tué dans un trou ou si on l'a tué devant tout le monde dans une potence. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il est serein parce qu'il a donné sa vie pour un Kadosh Baruch Hu. Et il faut savoir quelque chose de très important. Mourir parce qu'on est juif, ça s'appelle donner sa vie pour Dieu. Il faut le savoir, ça. Ça veut dire que tous ceux qui sont niftar pendant la Shoah, puisqu'ils sont morts parce qu'ils sont juifs, tous ceux qui meurent malheureusement dans les attentats, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas le temps de réaliser ce qui se passe, parce qu'en une fraction de seconde, ça se passe. Il faut savoir que ces gens-là, mourir parce qu'on est juif, ça s'appelle mourir al kiddush Hashem. Ça s'appelle donner sa vie pour un Kadosh Baruch Hu. C'est important. Donc là, on voit une différence fondamentale. C'est que chez les autres, on réfléchit en termes de rentabilité. Le jour où les Arabes, ils arriveront à la conclusion qu'envoyer des kamikazes est plus rentable, je vous garantis qu'ils arrêteront de le faire. Alors on leur trouve des intérêts, d'accord? On leur trouve des intérêts, par exemple. En tout cas, ce qui est clair, c'est quoi? C'est que chez nous, l'homme Israël, la différence qu'il y a dans l'Akedat Yitzhak. Et c'est pour ça que vous remarquerez que dans toutes nos tefilotes, les tefilotes de Yom Kippour, les tefilotes de Rosh Hashanah, les tefilotes de tous les matins, qu'est-ce qu'on rappelle comme mérite? On dit, Dieu, rappelle-toi le mérite de l'Akeda. Et le rabbi pose la question, on dit, mais pourquoi on rappelle le mérite de l'Akeda? Dans l'Akeda, finalement, Yitzhak, il est même pas mort. Il est mort, Yitzhak, à la fin? Il est même pas mort. C'est-à-dire qu'il y a eu une happy end à la fin. Et une belle fin.
Mais peu importe.
Une belle fin.
Alors justement, bah, il est
non,
pas mort.
Non, il est mort, si, il est mort.
Non, il est pas mort.
Il est mort. Et on a dit, c'est marqué qu'il est monté.
Mais il est pas mort. On l'a pas tué, il est pas mort. Il y a des gens dans l'histoire qui ont donné leur vie pour un Kadosh Baruch Hu. Et qui sont morts, concrètement. Alors pourquoi dans ce cas-là, on prend pas dans notre tefillah l'exemple de ces gens-là? Pourquoi on prend l'exemple de quelqu'un qui n'est pas mort? Parce qu'encore une fois, nous, ça nous change pas de savoir est-ce qu'il est mort ou il est pas mort. Peu importe s'il est mort ou il n'est pas mort. Ce que je vois, c'est qu'il y avait une personne qui était prête à donner sa vie pour Dieu de manière sereine, sans se poser de questions est-ce que c'est rentable ou pas. Après, est-ce qu'il est mort ou pas? Est-ce qu'il veut du monde ou pas? J'en ai rien à faire. Ça ne me change rien. C'est pas ça ce que je veux savoir. Moi, ce que je veux savoir, c'est que le Ham Israël, on a cette force, d'accord? On a cette force d'être capable de donner sa vie. N'oubliez pas que Yitzhak, regardez, Yitzhak, s'il te plaît. Yitzhak, quel âge il est à l'âge de la Kéda? 38 ans. Ça veut dire, autant c'est un chidouche, c'est une nouveauté de la part d'Abraham, qu'il est prêt à sacrifier son fils, mais autant c'est un chidouche de la part d'Yitzhak, de se laisser faire. Et de pas se dire, papa est devenu fou.
De se rebeller,
Se rebeller ou se sauver.
Quand on sait si Abraham, il lui dit, tu t'assois parce que, peut-être, bon,
c'est-à-dire que lui,
il lui dit, allonge-toi. Yitzhak ne sait même pas. Il sait même pas.
Ah, il lui a pas dit.
Il a pas dit. Il lui dit avec moi. Ils vont ensemble, ils arrivent en haut. Ils voient son père sur le grand couteau. Ah, d'accord? Et il lui dit, il dit à son père, il dit, mais papa, où est l'agneau? Où est l'agneau pour le sacrifice? Il lui dit, mais c'est toi? Ah, d'accord, ok.
C'est pas un brel. il voit, c'est un type intelligent. Il voit.
Alors.
Il le voit s'allonger, il le voit préparer l'hôtel.
Il se dit, non, il se dit, non.
Il a accepté.
À ce stade-là, il se dit, peut-être que papa.
Se faire lier.
Oui, peut-être, il se dit, peut-être que papa, il a prévu, peut-être qu'il y a quelque part, pas loin ici, peut-être qu'il y a quelque part ici, un bélier ou un truc comme ça, j'en sais rien. D'accord? Il dit, bon, on fait confiance. Mais là, quand il voit, comme on expliquait, il voit que son père lui dit, c'est toi. Jean Bidier, attends, quoi, c'est moi? C'est moi, 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 moi? Non, il dit rien. D'accord. Il dit, ouais, je suis là. Et il y va.
Marcel, tu veux que
j'aille? Ça veut dire. Parce que bien sûr, Yitzhak ne remettait pas en cause. Yitzhak, bien sûr, ne remettait pas en cause le fait que quand son père lui dit quelque chose, ça vient de Dieu. Et donc, si ça vient de Dieu, on écoute, c'est tout. C'est clair. Ça veut dire que la fin, qu'il y ait une bonne fin ou pas une bonne fin, ça change rien. Ce qui compte, c'est que c'est qu'on sait qu'il l'a fait. D'accord? Bon. Maintenant, pour expliquer ça, on va devoir maintenant passer au chapitre 19, qui est un chapitre passionnant, le chapitre 19. Pour expliquer ce que c'est la Emouna, on a déjà expliqué un petit peu. On va devoir expliquer maintenant qu'est-ce que c'est la Neshama. On s'est jamais arrêté dessus. On a expliqué qu'on a une âme divine, on a une âme animale, on a expliqué comment elle était composée, les pulsions, les caractères. Mais on n'a pas expliqué qu'est-ce qu'une Neshama. C'est quoi une Neshama?
Une particule de Dieu.
D'accord, c'est quoi une particule de Dieu? Concrètement, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'il a délégué une particule et qu'on a pris une délégation.
D'accord, mais concrètement, dans ma vie, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que j'ai une particule, de lui. Une particule.
Et alors, ça change quoi?
Bah, ça veut dire que grâce à ça, j'ai une arme, mais c'est ce qui fait mon yetzer tov, ce qui me permet de... Je ne sais pas comment l'expliquer.
C'est ce qui te... tu vois, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Pourquoi? Parce que là, en fait, c'est quoi le problème? C'est très simple. Dans le chapitre 18, on a expliqué la Emouna. D'accord, la Emouna, on a expliqué, donc je pense qu'on est bien, je pense que c'est assez clair. C'est-à-dire que la Emouna, on a expliqué, c'est l'instinct de survie d'un juif, l'instinct de survie, donc l'instinct de judéité d'un juif, qui est plus fort que la réflexion, on l'a expliqué longuement, qui est un héritage d'Abraham Avinu, et on a expliqué qu'on a donné plusieurs exemples pour montrer qu'en vérité, ça dépasse complètement la rationalité. Ça dépasse la rationalité, ça on l'a expliqué longuement. Mais ça, c'est le produit de quelque chose. La Emouna, c'est le produit de la Neshama. Maintenant, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est la Neshama. La Neshama, c'est la machine. Essayez de développer la Neshama. Qu'est-ce que c'est la Neshama? Vous allez voir, c'est un chapitre passionnant, ce chapitre. Alors, on y va. De ce fait de Biour, pour mieux comprendre, parce que surtout, on a expliqué dans ce chapitre 18 aussi qu'il y avait un amour caché. Vous vous rappelez l'amour caché? L'amour caché, c'est justement ce qui fait qu'on veut être attaché vers Dieu. D'accord? C'est ce qui est, l'amour caché qu'on a dans notre Neshama, c'est ce qui fait en sorte que je ne veux pas me détacher d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Alors, il dit comme ça. Il dit, pour comprendre ça, on passe au chapitre 19 maintenant. Alors, on au chapitre 19. Alors, il dit. Ou te sais fait biour, pour mieux expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'amour caché. Et d'où vient cet amour caché qu'on a en nous? Bien sûr, c'est Dieu, mais comment ça passe? Tsarich le va'erete. Il faut mieux expliquer ce que c'est la Neshama. Il faut mieux expliquer ce qui est écrit. Ner Hashem Nishmat Adam. Passo très important. Puisqu'on ne sait pas ce que c'est la Neshama, on va essayer maintenant de brasser les versets dans la Torah qui parlent de la Neshama. Et peut-être que dans ces versets, on va trouver un indice. Qui va nous expliquer qu'est-ce que la Neshama. On a trouvé un verset dans Michelet. Michelet du roi Salomon, Shlomo Melech. Qu'est-ce que dit Shlomo Melech dans Michelet? Il dit Ner Hashem Nishmat Adam.
C'est ce qu'il vient de dire là.
C'est quoi la Ner Hashem Nishmat Adam? D'accord? Ça veut dire la bougie de Dieu et la Neshama d'un homme. Ça veut dire que ma Neshama c'est comme une bougie. Quel rapport avec la bougie? Le roi Salomon, attendez, il faut bien comprendre. Le roi Salomon, on l'a dit dans les proverbes. Toute personne qui a déjà lu les proverbes sait que dans les proverbes, le roi Salomon s'exprime de manière cryptée. C'est-à-dire, c'est un exemple.
Tu as dit qu'en réalité, dans les cours d'avant, tu avais dit comme ça que quand on est dans une caisson, quand il y a
la moindre petite lumière.
Quand il y a un problème, quand on est dans un problème où il y a beaucoup un mauvais environnement, c'est considéré dans la Torah comme si elle était dans une pièce sombre. Et le fait de parler de Torah, c'est comme s'il y avait une lumière qui éclairait cette pièce sombre.
D'accord, ça, c'est très bien. Donc on a déjà une première réponse que nous donne Michael. Il nous dit, dire que la Neshama est comparée à une bougie, ça veut dire que de la même manière qu'une petite bougie peut repousser beaucoup d'obscurité, de la même manière, une petite Neshama peut changer un corps. C'est ça ce que tu veux dire?
T'as dit tout ça, Lucas?
Je l'ai pris dans un autre rang, quoi, mais ça me déconne. D'accord?
Tout ça
de ok. Première option. Très bien. On a comparé quand même à une bougie.
Ça veut dire qu'elle peut s'éteindre, alors?
Ah, attendez. On n'a pas comparé à une lumière.
Vous avez marqué une lampe.
Ah, justement, c'est un piège. On a comparé une bougie.
La divulgence.
Or, puisque le roi Salomon nous parle de bougie, donc on va devoir parler maintenant d'une bougie. On va devoir décomposer une bougie. Qu'est-ce qu'il y a dans une bougie?
Il y a de la cire, alors, il y a une mèche.
Attendez, d'abord, c'est quoi une bougie?
La cire,
une cire. Nerf, en fait, c'est une bougie allumée. Donc, qu'est-ce que j'ai dans une bougie allumée? J'ai une mèche.
Une mèche et de la cire.
D'accord. J'ai un combustible.
C'est ça.
Et j'ai une flamme. Donc, trois choses.
Il y a des couleurs.
D'accord, donc une flamme qui est composée de plusieurs couleurs. Donc, j'ai une flamme. J'ai une flamme, un support de cette flamme et un combustible qui fait en sorte que la flamme avance. Très bien. Maintenant, écoutez bien, attendez,
c'est la conséquence.
Ah, justement, écoutez bien. Pourquoi j'ai besoin d'un combustible?
Pour entretenir la flamme.
Et pourquoi sans le combustible, la flamme ne tient pas?
Parce qu'il a besoin de consommer quelque chose.
Pourquoi? Où elle part? Quand la flamme s'arrête.
C'est vrai, pourquoi?
Quand le combustible s'arrête. Pourquoi le feu s'arrête?
C'est lui qui l'a nourri.
Mais pourquoi elle a besoin d'être nourrie?
Pour donner la lumière.
C'est qu'une flamme, en fait.
Elle est transformée.
Je répète ma question. J'ai dit, pourquoi la flamme? Parce que le roi Salomon a comparé une flamme. Après, on reviendra à l'Aneshama. Pour l'instant, oubliez l'Aneshama. Parlons des bougies, maintenant. Là, on fait un cours sur les bougies. D'accord? On fait un cours de physique, on parle des bougies, maintenant. On parle du feu. Pourquoi la flamme s'arrête dès qu'il n'y a plus de combustible?
Il n'y a plus d'oxygène.
Très simple. La réponse est très simple. Parce qu'en vérité, le feu est toujours attiré vers où?
Vers le haut.
Vers le haut. Le feu, une flamme, la chaleur, le feu est toujours attiré vers le haut. Ça, c'est une base, d'accord? C'est une base du monde. C'est avec ça qu'on fait décoller des avions, c'est avec ça qu'on fait... C'est une base, c'est que l'air chaud, l'air froid, c'est une base. Bon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le feu, à la base, il est toujours attiré à monter à sa source. Si tu veux qu'il reste en bas, il faut l'attraper avec quelque chose. Tant que tu l'attrapes, il reste. Et donc, il te donne une flamme. Plus t'as de quoi l'attraper, plus ta flamme est grande. T'as plus de quoi l'attraper. Le feu, on le voit bien, on peut le voir clairement. Il s'envole. Où il s'envole? Il va en haut. On sait que la chaleur va toujours en haut, en haut, en haut. Quand il y a un incendie, Dieu préserve, qu'est-ce qu'on dit aux gens? On leur dit, faut vous mettre en bas. Parce que le feu, toujours, ça monte. La chaleur, elle monte. Je parle pas seulement du feu, mais la chaleur, elle monte. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la flamme, c'est quelque chose qui veut constamment monter, mais qui est retenu par un combustible. Par une mèche qui elle-même est alimentée par un combustible. Très bien. Vous avez dit, remarqué certainement aussi quand vous regardez attentivement une flamme, que la flamme bouge. Elle reste jamais sur place. Jamais. Alors c'est vrai que quand c'est une petite bougie, on a plus de mal à le voir. D'accord? Voilà, c'est vrai que ça peut être là, mais prenez même une flamme dans un endroit qui est parfaitement, il n'y a aucun vent. Regardez-la avec une ouvre, toujours elle bouge. Il n'y a pas de flamme qui ne bouge pas. Une flamme qui ne bouge pas, ça n'existe pas. C'est une fausse. Si elle bouge pas, c'est une fausse. Voilà. Voilà, ici, bon, voilà. Est-ce qu'il y a du vent, là? Vous sentez du vent? Voilà. Vous voyez, pourquoi elle bouge, là? Qu'est-ce qu'elle bouge? Pourquoi tu bouges?
Pourquoi elle bouge?
Elle bouge parce qu'elle veut partir. Mais je la retiens avec le gaz qu'il y a dedans. Je la retiens. Tant que je la retiens, elle reste. Dès que j'arrête de la retenir avec le combustible, qu'est-ce que je fais quand je lâche, là? Quand je lâche, je coupe le gaz. Quand je coupe le gaz, la flamme, instantanément, elle est partie. J'ai pas eu besoin de lui dire, hé, va-t'en. Quand tu fais ça ici, c'est pas que j'ai appuyé sur un bouton qui lui dit « éteins le feu ». Non. Mais, je veux dire, techniquement, qu'est-ce qui se passe? Quand j'appuie ça, j'ouvre l'accès du gaz qui va vers l'étincelle que je viens de faire en appuyant ici. D'accord? Dès que je lâche le bouton rouge, je coupe l'accès du gaz. Et donc, du coup, il n'y a plus de combustible. Puisqu'il n'y a plus de combustible, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête. Ok? Non, bien sûr que c'est le gaz. C'est le gaz, la mèche. Ok. Alors, on allume pas de cigarette. Hein. Alors, on y va.
David, ce n'est pas une bougie, c'est un briquet.
Ce n'est pas une bougie. Ceci n'est pas une bougie. Alors, donnez-moi. Maintenant, quel rapport avec l'aneshama? Puisque on a dit qu'on essaie de comprendre qu'est-ce que c'est l'aneshama. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est d'abord plusieurs choses. Quelle est la puissance de l'aneshama et surtout de quoi est composée l'aneshama? Concrètement, c'est quoi? Alors, on ne pourra pas forcément tout comprendre, mais on pourra au moins, au travers des exemples que le roi Salomon nous a donnés, on pourra comprendre un petit peu de quoi elle est composée. Là, vous allez voir que ça va beaucoup nous aider, l'exemple de la bougie. Parce que dans la bougie, de la même manière qu'il y avait la flamme, la mèche et le combustible, dans l'aneshama, on va retrouver les trois. On va retrouver ces trois choses-là. Quelle est la mèche, quelle est la flamme et quel est le combustible. Trois choses. Important à comprendre ça. Donc, dans les mots. Je reprends depuis le début du chapitre pour mieux comprendre ce qu'on a expliqué, comment vient cette émouna. Cette émouna vient d'une neshama. C'est quoi cette neshama? Ça veut dire que la vaheretta, il faut bien expliquer. Mach et tout ce qui est écrit, ner Hashem, nishmat Adam. La bougie d'Hashem est la neshama d'un homme. Pirouche, ça veut dire. Israël, akruim Adam. Israël, qui sont appelés Adam. D'accord? Ça veut dire que Adam, c'est la neshama d'un juif. Adam Arishon, c'est la neshama d'un juif. Parce que les autres ne sont pas appelés Adam. Nous sommes les seuls à être appelés Adam. Ça, c'est un thème dans lequel on reviendra plus tard. Les nations ne sont pas appelées Adam. L'appellation Adam a été donnée qu'aux juifs. Nishmatam, il est machal ke oraner. La neshama d'un juif est comme, la neshama d'un juif est comme, donc d'un Adam est comme la lumière d'une bougie. La neshama des autres n'est pas comme une bougie. La neshama d'un Adam de nous est comme une bougie. Maintenant, c'est quoi cette neshama? Qu'est-ce qui se passe dans la bougie? Chez Mitnonea Tamid, les Maala Betivo, qui bouge toujours pour aller rejoindre autre chose qui est plus haut que sa nature. C'est très important ce qu'il dit ici. Je vais expliquer ce qu'il veut dire ici. Dans toutes les autres choses qu'on a dans la vie, prenez par exemple ce que j'ai ici, là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici, là? J'ai une table. Bon. D'où elle vient, cette table? Elle vient, il y a du bois. D'où vient ce bois?
D'un arbre.
Bon. L'origine de cette table, ça vient d'où? Ça vient d'un arbre. Est-ce qu'on voit pourtant que cette table bouge pour revenir à l'arbre? Non. Une fois qu'il y a une transformation et que la table a été transformée, qu'avant c'était un morceau de bois, ça s'est stabilisé. Maintenant, si vous voulez, la matière a accepté cette transformation. Elle a accepté. Ça veut dire que avant, c'était un arbre qui vivait, qui bougeait. Tu lui as enlevé, certainement que ça a dû faire mal à l'arbre quand tu as fait ça. Tu l'as enlevé, tu as coupé. Tu as pris ce morceau de bois, tu l'as maintenant travaillé, tu en as fait une table. La table ne bouge pas. Ça veut dire que maintenant, si vous voulez, la matière a accepté cette transformation. Elle bouge pas. La seule chose dans la vie dans laquelle on voit qu'il y a une transformation de matière et que la matière n'accepte pas, c'est le feu. Dans le feu, je prends un élément, je le force à être retenu en bas. Maintenant, tu aurais dû dire, bon, maintenant t'as forcé, maintenant t'es ici, ça y est, on a transformé la matière, reste ici maintenant. Non. Tant que tu le retiens pas, il restera. C'est un petit peu comme on pourrait donner un exemple, c'est comme si par exemple dans Shahar Khudamuna, il donne un exemple, il dit, imaginez par exemple, je prends ce stylo et je le jette en l'air. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tant que ma force, moi je veux pas jeter haut, mais tant que ma force est plus forte que l'attraction terrestre, qu'est-ce qui se passe? Il monte. Dès qu'il s'arrête, il tombe. Je peux lui dire, mais attends, ça va, sois gentil avec moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai jeté, d'accord? Je t'ai jeté, maintenant que t'es en haut, reste en haut. Non, marche pas comme ça. Parce que c'est plus fort que lui. Et ben c'est la même chose pour le feu. Le feu, c'est le contraire. L'attraction terrestre, c'est pour aller vers le bas, le feu, c'est exactement le contraire. Maintenant, cet objet-là, j'ai envie de lui parler, je lui dis, mais écoute, c'est dommage. Je vais te jeter, on est à 200 mètres là, je vais te jeter, tu vas tomber, tu vas te casser, c'est pas dommage. Tu prends, tu veux tomber, tu vas te casser. Ça change pas. Est-ce que l'objet peut dire non, je veux pas tomber? Y a pas, il doit tomber. Et tant que tu le retiens pas, il va tomber. Et ben c'est exactement la même chose, c'est exactement la même chose qui se passe de l'autre côté pour le feu. Qu'est-ce qui se passe avec cette flamme? C'est très important ce qu'il dit ici, cette flamme, qu'est-ce qui se passe? Tant qu'elle est retenue, elle est ici. Elle a une substance, elle sert à quelque chose. Mais cette flamme, lorsque je vais couper, qu'elle va cesser d'exister, elle va aller où? Où elle va aller, cette flamme? Elle va disparaître. Est-ce qu'elle aura une substance? Elle servira à rien. J'ai envie de lui dire, mais j'ai envie de lui dire, je dis, mais arrête, pourquoi tu veux partir? Tu serviras à rien.
Au-delà du fait de...
Ça change pas qu'elle sert ou qu'elle sert pas. C'est une nature, c'est un instinct. De la même manière que cet objet a un instinct qui doit tomber, de la même manière la flamme a un instinct qu'elle doit monter. Même si elle va se casser, ça change pas. Elle doit le faire, il faut qu'elle parte.
Mais
c'est ce qu'il
dit.
Elle n'a plus?
Elle n'a plus d'existence.
C'est exactement, mais ça la dérange pas. Elle sait qu'elle va quitter son existence. D'accord? La flamme sait pertinemment que quand elle va partir, elle va quitter son... Mais ça la dérange pas. Elle, ce qu'elle veut, c'est une parabole, ce que je dis.
En même temps, elle n'a pas le choix.
Ouais. Voilà. Exactement. Elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. C'est comme l'objet, il doit tomber. C'est tout. Même si il doit tomber et qu'il doit se casser à cause de ça, il doit tomber. Je dis, mais pourquoi tu tombes? Il doit tomber. D'accord? Alors c'est la même chose.
C'est l'attraction terrestre qui le fait tomber.
C'est
l'attraction terrestre qui le fait tomber.
Très bien. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une force vers le bas,
donc
une force vers le haut.
C'est quelque chose de naturel.
Voilà, de naturel, mais qui est plus fort que lui, qui est plus fort que l'objet. Est-ce que l'objet peut décider d'être plus fort que l'attraction terrestre? Non.
Il peut rien décider, l'objet, c'est un objet.
Exactement.
Si,
chaque chose est...
Quand on est dans des vaisseaux spatiaux,
ils
tiennent...
On ne peut pas décider.
La force d'attraction.
On ne peut pas décider d'être plus fort que l'attraction terrestre.
Ils ne plus et on voit même les gens flotter en l'air. Ils sont en lévitation
très bien.
Permanente.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attraction terrestre n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Enfin, je veux dire, l'attraction terrestre, c'est sûr, on peut expliquer. Je veux dire, c'est qu'on peut pas maîtriser, je voulais dire. On peut pas maîtriser l'attraction terrestre. Tu peux pas maîtriser, c'est comme ça.
Ben si, voilà, il a maîtrisé.
On peut la contrer.
Dans les,
oui, mais pour la contrer, il faut beaucoup d'énergie.
Oui, mais elle est pas démarrée. Mais ils ont dépassé. Non, on la maîtrise pas. Ils ont quitté la gravité.
C'est pas naturel.
Au bout d'un moment. Ils ont quitté la planète Terre.
S'ils n'ont plus d'énergie, ça tombe.
Ils sont plus dans la planète Terre, ils sont dans d'autres planètes. Dans la planète Terre, on peut pas dire je suis plus fort que le.
On peut pas.
C'est pas possible.
S'affranchir de
la même manière que la flamme ne peut pas s'affranchir de son origine et de sa volonté de rejoindre son origine. C'est comme ça. Il y a quand même une différence. C'est quoi? C'est que là, quand je jette l'objet, l'objet a envie de retourner par terre. Bon, c'est tout. Il veut tourner par terre, maintenant il se casse pas, ça le dérange pas. La flamme, en vérité, nous explique ici.
Il n'en sait rien,
exactement. La flamme, on sait pertinemment que la flamme veut retourner à son origine. L'origine de la flamme, comme a dit David tout à l'heure, mais ça on l'expliquera la semaine prochaine.
C'est son aller.
C'est son origine, c'est en dessous de la lune. On en parlera tout à l'heure, demain, la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Son origine, c'est en dessous de la lune, c'est là-bas son origine. Elle sait pertinemment que plus elle va monter et plus elle aura plus de substance. Ça la dérange pas. D'accord? Ça, on en parlera la semaine prochaine. Alors, c'est la même chose par rapport, et là, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'est la même chose quand on parle, par exemple, quand on parle ici de la Neshama. La Neshama doit constamment être retenue par un corps. Ça veut dire que, imaginez que notre Neshama.
Mais la nuit, elle est.
Notre Neshama, justement, non, elle monte, ça veut dire qu'il y a une partie. On a baissé la température, voilà. On a baissé le gaz, mais elle reste un peu accrochée. Elle reste à.
Elle mijote,
on va.
C'est la plate.
Elle a des gaz, donc.
Ça veut dire quoi? À feu doux, voilà, comme ils disent, à feu doux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Quand une personne rabotaille, doit partir de ce monde. C'est pas qu'on est en train de dire que la personne, bon, son corps s'est éteint, maintenant sa neshama, Dieu vient reprendre la neshama. Il n'y a même pas besoin de ça.
Il n'y a pas besoin. Elle allait se ressourcer
justement.
Là où elle revenait.
Non, d'accord, mais en laissant veilleuse en bas. Mais quand la neshama, quand la personne part de ce monde, il n'y a pas besoin de dire que le corps s'éteint et Dieu dit, bon, viens, je viens reprendre la neshama. Non, ça ne marche pas comme ça. Dès que le corps est éteint, automatiquement la neshama remonte. C'est comme la flamme. Dès que tu arrêtes le combustible, tout de suite elle monte. C'est comme un ballon. Tant que tu l'as arrêté à l'hélium, d'accord, tant que tu l'arrêtes, eh ben il s'arrête. T'enlèves ton obstacle, il monte. Et tant que tu l'arrêteras pas, il montera. Et c'est comme ça. Maintenant, en haut, qu'est-ce qu'elle vaudra? Rien à voir avec ce qu'elle va aller en bas. Elle pourrait plus être productive. Ça, on va développer plus longuement, mais ça va passer la semaine prochaine. En tout cas,
David.
Ce que je voulais montrer dans le début de ce développement, et ça, on expliquera plus longuement la semaine prochaine, expliquer comment on voit clairement ici qu'on a en nous une neshama qui a une puissance extraordinaire et que même si on ne s'en rend pas compte, c'est pas parce que je m'en rends pas compte que c'est pour ça qu'elle n'est pas là. C'est comme la flamme. Quand tu la vois ici devant toi, petite flamme, tout mignonne, toute sympathique, tu vois pas que c'est énorme. Et quand tu la lâches, c'est là que tu vois qu'elle a une vie, qu'elle a envie de monter vers le haut, qu'elle a envie de monter de manière très puissante. D'accord? Et ben, c'est la même chose par rapport à Kadosh Baruch Hu. Notre Neshama, elle est très puissante. Même si on le voit pas, parce que maintenant elle est retenue par un combustible. Mais, dans des moments comme ça, dans lesquels elle sent que si elle fait ce qu'elle va faire, et ben, elle sent qu'à cause de ça, elle va quitter ce combustible, elle va devoir partir, hop, tout de suite elle se retient. Donc ça veut dire qu'il veut expliquer que même si je le ressens pas, c'est pas parce que je le ressens pas qu'elle n'est pas là. Mais Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va expliquer plus longuement, dans les détails, qu'est-ce que c'est le combustible, qu'est-ce que c'est la mèche, qu'est-ce que c'est la flamme, et dans la vie de tous les jours. D'accord? Ça veut dire comment rajouter du combustible, comment améliorer sa mèche, parce qu'il faut les trois. Il faut que la flamme prenne, il faut que la mèche soit bonne, et il faut que le combustible soit bon. S'il manque un des trois, c'est pas bon. Si t'as pas le feu que tu allumes, la mèche n'est pas bonne ou le combustible n'est pas bon, ça marche pas. Il faut les trois. C'est quoi les trois? Ça nous expliquera la semaine prochaine. Voilà, ça arrête là pour aujourd'hui.